Presque 16h52. Écoutez, hier aux États-Unis, on a appris une nouvelle qui, normalement, dans n'importe quelle autre administration, aurait monopolisé pendant une semaine les nouvelles. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte qui a déclenché toute l'histoire de Donald Trump et du président ukrainien, ben il est sous protection fédérale, il est sous protection armée parce qu'on a peur pour sa vie. Ok, ça donne une idée du climat politique présentement. Raphaël, allez vous parler de ça? Mais il y a tellement de nouvelles depuis juste 16 heures aux États-Unis que, Raphaël, on va peut-être en parler une autre fois.
Juste pour préciser, là, Pat, quand tu dis depuis 16 heures, tu veux pas dire depuis les 16 dernières heures.
Depuis 52 minutes.
Exactement, depuis 16 heures.
Ce qui est arrivé depuis 52 minutes tasse cette grosse nouvelle-là dont normalement on aurait parlé.
Exact, vas-y. Donc prenons-les une à la fois. Oui. Premièrement, on a appris que Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, l'équivalent un peu du ministre de Donald Trump des Affaires étrangères, a été partie prenante du fameux appel entre Trump et le président ukrainien qui a tout commencé ce bal-là. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? On sait ça parce que, en vertu de l'enquête de la Chambre des représentants sur l'impeachment, on a envoyé un subpoena à M. Pompeo. Il y a des documents qu'il était légalement obligé de fournir au Congrès. Mm-hmm. Et on aurait appris, par l'entremise de ces documents-là, donc, que le secrétaire d'État était partie prenante, ce qui l'implique directement dans cette affaire-là pour être appelé à témoigner, etc. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parlant de subpoena, on a appris que Rudy Giuliani, ex-maire de New York, mais surtout à l'heure actuelle, avocat personnel de Donald Trump, allait lui aussi recevoir un subpoena. C'est important parce que souvent, sans devenir trop technique, là, aux États-Unis, on peut invoquer ce qu'on appelle le privilège exécutif. Autrement dit, si vous travaillez au sein de l'administration américaine, dans certains cas, vous pouvez refuser de témoigner en disant j'ai le droit de me protéger sous ce qu'on appelle le privilège exécutif. Or, M. Giuliani n'est pas l'avocat de la Maison-Blanche, c'est l'avocat personnel de Donald Trump. Donc, ça va être assez difficile pour lui de se protéger.
Et ça, c'est au cœur de tous les imbroglio de l'Ukraine. C'est comment ça se fait que Donald Trump n'utilise pas son département d'État, n'utilise pas les canaux gouvernementaux normaux. Pourquoi même pas un de ses avocats payé par la Maison-Blanche, pourquoi c'est son avocat personnel qui intervient en Ukraine?
Et à de multiples reprises. Oui, c'est une question qu'on pose depuis une semaine à Rudy Giuliani parce qu'on apprend ça au compte-gouttes. Il avait les mains dans cette affaire-là depuis des mois. Et qu'est-ce qu'il faisait là alors que c'est l'avocat personnel du président?
Raphaël, je vais être... Quand tu as un consigliere comme ça pour parler comme dans le film Le Parrain, écoute... T'sais, Trump a toujours fonctionné comme ça. Toujours eu des méthodes un peu mafieuses. Ben, tu vas avoir une Maison-Blanche un peu mafieuse.
Avant, c'était Michael Cohen qui va se ramasser pour les prochains mois de sa vie derrière les barreaux. Là, maintenant, c'est Rudy Giuliani. Je suis pas en train de te dire que Giuliani va se ramasser
Cohen,
en prison.
Michael Cohen qui était l'avocat de M. Trump quand il n'était pas en politique et qui faisait ses sales jobs.
Exactement. Et donc, Rudy Giuliani qui semble un petit peu avoir pris le flambeau et qui maintenant mène des affaires d'État alors que c'est l'avocat personnel du président. Dernière nouvelle et non la moindre, je rappelle que tout ça, ça a éclaté dans la dernière heure. On a appris que Donald Trump aurait également mis de la pression sur le premier ministre australien. Donc, peux-tu croire ça? Sur le premier ministre australien pour l'aider. Écoute bien ceci. Pour l'aider dans l'enquête que son département de la justice est en train de mener sur les origines du rapport Mueller. Et juste pour donner un contexte au niveau du temps à tous ceux qui nous écoutent, là, le rapport Mueller, évidemment, on l'a eu au printemps dernier.
Oui.
Ça fait des mois que c'est derrière nous.
Oui.
Donald Trump ne le digère pas. Et même s'il était largement blanchi, on s'entend, il s'en sort indemne.
Oui.
Mais il ne digère pas le fait qu'on ait enquêté sur lui pendant 2 ans et veut prouver que les origines de cette enquête-là étaient non fondées.
OK, mais attends une seconde. C'est quoi le lien avec l'Australie?
Le lien, et ça va être assez difficile à suivre, fait que je vais te le résumer de façon la plus simple possible. Ce sont certains contacts australien qui aurait été à la base du lancement du rapport ou de l'enquête Mueller. Et donc, Donald Trump aurait demandé au premier ministre australien de collaborer avec son procureur général pour l'aider essentiellement à démontrer que le rapport Mueller n'avait pas lieu d'exister en premier lieu, que l'enquête Mueller n'aurait jamais dû avoir lieu. Autrement dit, une autre façon de le résumer, c'est celle-ci. Un petit peu comme dans le cas avec l'Ukraine, Donald Trump a contacté un leader d'un pays étranger pour l'aider à des fins politiques aux États-Unis.
Et tout ça, ça se passe, je le rappelle, dans les dernières 56 minutes.
C'est ça ma job, Pat.
Écoute, une de ces affaires-là, normalement, dans n'importe quelle autre administration que moi j'ai pu voir évoluer de mon vivant, là, Raphaël, là, ça aurait monopolisé l'agenda politique pendant des semaines. C'est incroyable.
On s'en reparle demain,
que je l'ai dit. La présidence américaine, plus de rebondissements que Occupation double, Afrique du Sud.